Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Il approche de la soixantaine, il a dû arrêter de travailler suite à des ennuis de santé, mais l'administration considère qu'il est apte et lui supprime ses allocations. Va alors commencer pour Daniel Blake un parcours du combattant qui va l'obliger à se confronter pour la première fois de sa vie à Internet, aux formulaires en ligne et aux centres d'appels téléphoniques qui vous mettent en attente pendant des heures avant de raccrocher. Moi, Daniel Blake de Ken Loach, Palme d'Or au dernier festival de Cannes, illustre bien, même si le film se déroule en Angleterre, la difficulté que peuvent avoir certains publics à accéder à leurs droits. On appelle ça le non-recours, des prestations qui auraient dû être versées mais qui ne le sont pas parce que les bénéficiaires finissent le plus souvent contraints par y renoncer. En France, le cas du revenu de solidarité active est particulièrement significatif. Selon l'Observatoire des non-recours aux droits et services, plus de 5 milliards d'euros de RSA ne sont pas versés chaque année à ceux qui pourraient en bénéficier. Une économie budgétaire à court terme, mais un coût social à plus long terme. Alors, droits sociaux, combien coûte le non-recours ? Eh bien, c'est une question que nous posons à l'occasion d'une émission qui, je le signale, a été enregistrée le 26 avril dernier. Question que nous allons poser ce soir à trois invités, à commencer par vous, Jeanne Romana. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes assistante sociale pour le Conseil départemental du Val-de-Marne, membre de l'ANAS, l'Association nationale des assistants de services sociaux. Pour
Exactement.
Discuter avec vous, Daniel Verger, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du pôle action et plaidoyer au Secours catholique, le Secours catholique qui remet chaque année son rapport et qui, lors de sa dernière livraison, s'est notamment intéressé à cette question des droits sociaux et de l'accès aux droits sociaux. Et puis notre troisième invité se trouve à Grenoble, dans les studios de France Bleu Isère. Il s'agit de Philippe Varin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes le cofondateur de l'ODENOR, l'Observatoire des non-recours aux droits et services. Vous avez notamment publié le non-recours aux politiques sociales qui a été publié l'an dernier aux presses universitaires de Grenoble. Et puis vous aviez dirigé un précédent ouvrage, cette fois à la découverte, l'envers de la fraude sociale qui était en quelque sorte une première définition du non-recours. Est-ce que l'objectif pour vous, Philippe Varin, c'était d'abord de faire connaître un phénomène qui est encore extrêmement peu connu, notamment en France?
Tout à fait, c'était bien l'objectif de cet ouvrage collectif produit par les différents chercheurs de l'ODENOR. Alors même que à cette époque-là et encore aujourd'hui, l'approche essentielle est en termes de finalement fraude possible aux prestations sociales. Donc il s'agissait de remarquer l'envers de la fraude, c'est-à-dire le non-recours. Et l'envers est tout à fait clair, puisque les données officielles concernant les montants liés à la fraude prestations sociales est estimé à 4 ou 5 milliards d'euros. Et l'ensemble des données produites avec les différents acteurs de politique publique, collectivités, organismes sociaux, pour mesurer les non-dépenses liées au non-recours, nous montre bien que, sous cet angle-là aussi, le phénomène du non-recours est bien supérieur. Vous avez indiqué les montants de 5,3 milliards pour le non-recours au RSA. On pourrait ajouter, en ce qui concerne des dispositifs d'assurance maladie, que ce soit la couverture maladie universelle complémentaire ou bien l'aide à l'acquisition de complémentaires santé, que ce non-recours voisine finalement en termes financiers avec les 1 milliard. Et on pourrait ajouter, finalement, en France, nous avons une proportion qui est tout à fait comparable à ce qui est mesuré depuis longtemps en Grande-Bretagne par l'équivalent de la Cour des comptes.
Donc des sommes liées au non-recours qui sont beaucoup plus importantes que celles de la fraude aux prestations familiales. Ce qui ne veut pas dire que la fraude se limite à ça, bien sûr, et si on parle de fraude fiscale, alors là, on est encore dans une autre dimension. Phénomène méconnu, est-ce que la méconnaissance, c'est aussi peut-être le premier terme qui s'impose en matière de non-recours? Daniel Verger, est-ce que on n'a pas recours à certains droits sociaux parce qu'on ne sait pas que l'on y a droit?
Exactement. Donc on a bien avec le non-recours une double invisibilité. D'une part, on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, ou plus exactement quelles sont les personnes qui auraient droit. Je crois que, comme ça a été dit, autour d'un tiers, c'est une bonne proportion, en tout cas pour le RSA, mais on a parfois du mal à connaître l'ampleur exacte. Et puis les personnes, parfois, et même assez souvent, disent ça m'a été dit assez récemment par une personne, on parle de non-recours, mais finalement ce terme me gêne, parce qu'en réalité, c'est plutôt que je ne sais pas exactement à quoi j'ai droit, et j'hésite à demander et à me tromper, et à être accusé de fraudeur. Et donc, le non-recours, c'est plus encore, finalement, le non-accès au droit, parce que c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on hésite, parce qu'on a peur de se tromper, et pour plein d'autres raisons.
On ne sait pas, est-ce que c'est quelque chose qui concerne l'ensemble des catégories sociales, ou bien est-ce que c'est un phénomène qui est beaucoup plus ciblé, c'est-à-dire finalement plus on a besoin d'avoir accès à ces droits et plus on est dans un manque d'information. Philippe, Daniel Verger.
Alors oui, plus on a besoin, souvent plus on est dans un manque d'information. Plus on est aussi en difficulté à faire les démarches nécessaires. Au Secours catholique, vous l'avez évoqué, on a fait, comme tous les ans, un rapport sur l'état de la pauvreté, qui est issu des personnes que nous recevons et accompagnons. Donc c'est partiel, mais c'est aussi très significatif quand même des évolutions. On a fait un travail l'année dernière sur le non-recours, en particulier sur le RSA, en essayant de voir qui avait droit au RSA et qui l'avait effectivement. On a vu que 38% des personnes qui venaient au Secours catholique, qui auraient pu et dû avoir droit au RSA, n'avaient pas le RSA. 4% étaient en attente, donc ça fait même 42% au total. Mais en tout cas, 38% correspondait bien à ce qu'on pouvait appeler le non-recours. En fait, parmi elles, dans les personnes qui avaient des difficultés particulières à lire et à écrire, eh bien 50% étaient en situation de non-recours. Donc on voit que c'est supérieur à ce gros tiers qui est le niveau général. On voit aussi que plus on se sent en insécurité, plus c'est difficile. Par exemple, il y a beaucoup de personnes étrangères qui ont pas recours aux droits auxquels ils ont droit, et pourtant ils ont peu de droits, que le nombre de Français.
Je reste encore un instant, si vous permettez, sur la question de la méconnaissance, finalement, de ces droits. Vous nous disiez, Jeanne Romana, en préparant l'émission, que vous, au fil du temps, je crois que ça fait une vingtaine d'années que vous êtes assistante sociale, vous aviez vu, justement, cette méconnaissance des droits évoluer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus?
Déjà, cette méconnaissance des droits a évolué parce que les guichets d'accès ont disparu aussi. Faut savoir, c'est-à-dire quand je parle de guichets d'accès, il y avait des lieux où les personnes pouvaient se rendre, qui étaient visibles, qui étaient accessibles dans les centres sociaux, dans les caisses d'allocations familiales. Et petit à petit, on a vu tous ces guichets d'accès fermés pour faire la place au tout numérique. Donc, on oublie. Enfin, moi, je me rends compte dans mon travail quotidien, il y a des situations complètement ubuesques où les gens, on leur dit. Ils ont un droit, ils arrivent, on leur dit, mais vous n'avez pas pris rendez-vous. La personne dit, je ne sais pas écrire, je ne sais pas comment faire. Oui, mais il faut aller sur Internet. Des situations comme ça. Mais non, j'ai pas Internet, je suis même SDF, je circule à gauche et à droite et j'ai pas accès. Eh ben, débrouillez-vous. Donc les gens viennent nous voir. Alors heureusement qu'on a de la chance d'avoir un département qui a un peu ce souci de permettre aux gens d'avoir accès au maximum de personnes. Ce qui fait que les gens, quand ils viennent nous voir en accueil au bureau, nous on les reçoit et on refait tout le chemin avec eux. Parce que ils sont complètement démunis. Parce qu'il y a des gens, faut savoir, qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils entendent partout. Oui, vous êtes des assistés, donc ils intègrent ça. Et parce qu'ils intègrent ça, ils pensent qu'ils ont droit à rien.
Mais est-ce qu'il vous arrive, Jeanne Romana, d'être confrontée à des publics qui ignorent qu'ils pourraient être bénéficiaires, par exemple, du RSA, puisque c'est un des sujets dont on parle beaucoup à travers le non-recours?
Bien sûr, ça existe, ça fait partie de notre travail aussi. C'est-à-dire que quand les gens viennent, ils viennent souvent pour une demande ponctuelle. Ils disent, voilà, j'ai pas d'argent, j'ai perdu, voilà. Donc nous, on revoit avec eux les droits. La première chose qu'on fait. On revoit avec eux tous les droits et on découvre des gens qui ont droit à l'allocation logement, qui ont du mal à payer leur loyer. Eh ben, ils savent pas qu'ils ont droit à l'allocation logement. Le RSA, c'est pareil. Donc nous, en fait, on aide les gens, en fait, à avoir accès à leurs droits. Ça fait partie de notre travail.
Et donc, accès aux droits, c'est d'abord un accès à l'information, on pourrait dire,
Philippe Varin. Accès à l'information.
Philippe Varin.
Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jeanne Romana, il est vrai que pour un certain nombre de prestations, je pense notamment les prestations extra-légales, que pour ces prestations-là, les taux de non-recours sont élevés car il y a un manque total d'informations sur l'existence même de ces aides. D'où toute l'importance du travail social que vient de rappeler Jeanne Romana, de pouvoir comprendre les besoins des personnes, de pouvoir les informer et de les accompagner vers des prestations qu'ils ne connaissent pas.
Est-ce que ça veut dire que c'est parce que en matière de droits sociaux, on est sur des principes qui sont proches de celui de la loi en général ? C'est-à-dire, on connaît cette fameuse phrase, nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que l'administration part du principe, ou les administrations partent du principe que nul n'est censé ignorer les droits sociaux et ne fait peut-être pas l'effort d'aller suffisamment au-devant des éventuels bénéficiaires, Philippe Varin ?
Exactement, c'est ce qui est souvent évoqué, mais en même temps, il faut regarder la réalité en face. Elle est effectivement sur le fait qu'un grand nombre de personnes, déjà, ne connaissent pas du tout des prestations. Mais au-delà de ce problème de méconnaissance, c'est aussi la difficulté à pouvoir utiliser à bon escient, au moment voulu, l'information qui est apportée. Et beaucoup de personnes sont perdues ensuite pour mobiliser cette information et permettre des ouvertures de droits. À ces difficultés-là, effectivement, s'ajoute ce que Daniel Verger signalé en termes d'illettrisme, 2,5 millions de personnes en situation d'illettrisme. Bien souvent, et on l'a vu dans des enquêtes récentes, ces personnes-là en particulier n'ont pas moins de connaissances d'une façon générale par rapport à l'étendue des droits, mais sont dans des difficultés pour mobiliser cette information et entreprendre des démarches. Et peut-être une dernière chose sur la méconnaissance, c'est aussi une difficulté que l'on rencontre, me semble-t-il, du côté des différents intervenants sociaux. Vu la complexité des systèmes, leur cloisonnement, leur évolution réglementaire souvent très rapide, il est vrai que dans bon nombre de services, et malgré tous les efforts qui sont accomplis par les professionnels, certains d'entre eux ne sont pas en mesure d'avoir une connaissance suffisante, actualisée des droits, de façon à pouvoir opérer le travail que signale Jeanne Romana.
Jeanne Romana, justement, ce qui vous arrive, vous aussi, de vous perdre un peu dans les démarches administratives, dans l'évolution des différents droits et d'être aussi en difficulté dans ce travail d'accompagnement.
On a des difficultés par rapport aux partenaires. Pas dans la compréhension, puisque régulièrement, on renouvelle, on fait des formations. Le problème, c'est qu'on a des partenaires on n'a plus d'interlocuteurs. Avant, on avait des interlocuteurs privilégiés. C'est-à-dire, quelqu'un vient, voilà, il dit, j'ai un souci, sécu, CAF, ou nous, on prend le téléphone, on appelle le collègue, tout ça. Petit à petit, tout ça a disparu, il faut le savoir. Et tout ça crée une plus grande misère. Moi, je l'ai vu au bout de plus de 20 ans, les choses évoluaient, mais vers la misère. Et ça, on oublie dans ces accès aux droits aussi, c'est l'accès à l'humain, à plus d'humain, à plus de générosité et moins de souffrance. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les gens, ils sont dans une tellement grande souffrance, eh ben, qu'ils renoncent. Ils disent, de toute façon, j'aurais pas droit. De toute façon, c'est trop compliqué. De toute façon, je sais pas faire Internet. Et ils laissent. Et souvent, les gens, on les traîne, on les accompagne, on les amène à leurs droits, parce que sinon, ils sont eux-mêmes, ils baissent le... Parce que, et puis, ils entendent tout le temps dire, les pauvres, c'est eux qui pompent la société, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Donc, nous, les difficultés qu'on a, c'est plus par rapport aux partenaires, plus par rapport aux guichets qui se ferment, plus par rapport aux intervenants privilégiés qu'on a eus par le passé.
L'accès à l'humain, ça c'est essentiel pour comprendre cette question du non-recours, Daniel Verger, d'autant qu'en général, lors de la première démarche, en l'absence ou en tout cas avec la disparition des guichets, on est confronté à des plateformes téléphoniques, quoi, des plateformes internet, et que si le premier contact qui est censé être celui qui permet de faire un diagnostic, une expertise est totalement déshumanisé et dématérialisé, on va dire que on part d'un mauvais pied pour un certain nombre de publics.
Exactement. Exactement. Cette affaire d'accès à l'humain et d'humanisation des rapports, et notamment de ce contact avec les agents sociaux, c'est extrêmement important parce que on en discute beaucoup avec des groupes comme ça de personnes qui sont en situation de précarité et qui nous expriment leurs difficultés. Vous l'avez dit, d'abord, on n'ose pas trop, parce qu'on sait quand même, hein, ça a beaucoup évolué là-dessus, que le fait de demander des aides, c'est maintenant plutôt mal vu. On se sent un petit peu considéré comme coupable, comme fraudeur potentiel. Et ça a vraiment diffusé dans l'opinion, parmi les personnes en situation de précarité. Donc il y a déjà cette crainte-là. Les formulaires sont compliqués, on a peur de se tromper. On veut obtenir un rendez-vous, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus la CAF à fermer, il n'y a plus que 2 heures pour recevoir et grand corps sur rendez-vous. Donc comment prendre rendez-vous ? Par téléphone. Mais par téléphone, il n'y a pas la case, enfin il n'y a pas la touche. Je voudrais expliquer ma situation et avoir quelqu'un qui me dit comment faire. Donc le premier contact est souvent dur, complexe et assez inhumain. Et puis après, heureusement, ça dépend des fois, eh bien, il y a le contact physique quand on a un rendez-vous. C'est parfois long d'avoir un rendez-vous. C'est parfois la galère d'en obtenir un. Il faut des semaines. On a fait le travail pour obtenir les photocopies. On espère avoir rien oublié parce que c'est toujours très compliqué de savoir tous les papiers qu'il faut amener. Et puis on vient et là, ça se passe... Parfois bien, parfois moins bien, mais il y a toujours cette peur que ça se passe mal, parce qu'on a oublié quelque chose, parce que on se rend compte que on n'avait pas compris, que on a un papier qui manque, parce que on n'a pas la bonne réponse, ou on ne sait pas exactement entrer dans les cases. Et il y a donc vraiment cet enjeu de pouvoir avoir une relation de confiance, alors qu'on part plutôt dans la méfiance avec l'administration, et de pouvoir être remis en selle. Et ça, c'est très très important, c'est vraiment une des premières demandes des personnes en situation de précarité, pouvoir être bien considéré, avec bienveillance, essayer de trouver ensemble une solution, plutôt que d'être rejeté dès qu'on a fait une erreur, ou dès qu'on n'est pas dans la case.
Et Philippe Varin, est-ce qu'on peut dire que la dématérialisation des démarches n'a pas été suffisamment réfléchie quant à ses effets pervers? Parce qu'il y a aussi énormément d'avantages à cette dématérialisation, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de procédures qui sont simplifiées, mais pour certaines et pour certains, c'est beaucoup plus compliqué.
Tout à fait. Bon, le numérique peut présenter de nombreux avantages, mais lorsque l'on interroge les acteurs sur les territoires, on s'aperçoit que pour une part non négligeable de la population, évaluée ici ou là entre 10 et 20%, il y a absolument besoin d'un rapport humain, d'avoir des professionnels qui sont des référents pour aider les personnes dans différentes démarches, mais aussi besoin d'humain au-delà, parce que on se situe là dans ce qu'il serait nécessaire d'avoir en termes humains en tant qu'accueil dans différents dispositifs, dans différents lieux, mais il y a aussi besoin de se porter vers des populations qui décrochent totalement et qui partent dans une certaine invisibilité. D'où l'intérêt des collectivités locales, des organismes sociaux, de pouvoir s'associer, y compris avec des acteurs associatifs qui sont dans une grande proximité, de façon à aller vers des populations qui sont dans ce décrochage par rapport aux droits sociaux, de façon à pouvoir les ramener vers ceci. Je pense là à toutes les démarches, par exemple en matière de santé, que les médiateurs pairs en santé, comme les choses sont expérimentées et développées ici même à Grenoble et sur d'autres territoires. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Donc effectivement, le besoin d'humains pour accueillir et accompagner au mieux les personnes à partir des dispositifs existants, mais également des moyens humains de façon à se tourner vers des populations qui sortent des radars institutionnels habituels.
Peut-être pour prendre des cas concrets, Jeanne Romanin, donc vous, quand vous êtes confronté donc à cette méconnaissance des droits et aux difficultés des publics avec lesquels vous travaillez à justement obtenir leurs droits sociaux, comment est-ce que vous procédez? Par exemple, quelqu'un qui ignorerait qui peut être bénéficiaire du RSA, quel travail vous allez entreprendre, vous, pour essayer de l'aider et de l'accompagner dans ses démarches? Est-ce qu'à un moment donné, vous finissez pas aussi par vous substituer au travail qui devrait être celui d'agent des administrations? Parce que c'est pas après, enfin, normalement, c'est pas à vous que revient cette charge, en tout cas dans sa totalité, j'imagine.
Oui, c'est exactement. Mais on est dans un vrai parcours du combattant. On peut pas. Nous, quand on reçoit, on a une vision, on essaie d'avoir une vision globale de la situation. C'est exactement le mot. On demande à la personne, on lui pose des questions sur ce qui s'est passé les derniers mois, etc. Et petit à petit, on reconstruit. on reconstruit avec et on se rend compte que la personne, en fait, les doigts légaux, enfin, on n'aurait même pas dû avoir à faire ça. Mais comme nous, on est là pour sauver des situations, pour sauver pratiquement des vies, parce que les gens se rendent compte qu'ils sont malades, mais ils savent pas où aller. Et donc, on refait le chemin. Et c'est pour ça que je parle d'un parcours de combattant. Et c'est des fois c'est dramatique. Je sais pas si nous on n'était pas là, ce qui arriverait, puisque souvent les gens ils ont qu'un dernier recours, c'est le travailleur social, et parce que tout le monde leur dit, même la personne légale lui dit allez voir le travailleur social, et nous pour éviter de faire ping-pong avec les gens, parce que ce sont des personnes qui sont devant nous et on peut pas se permettre de les renvoyer de jouer au ping-pong avec eux, donc on prend le temps. Et on a, alors, je fais pas de la pub pour mon département, on a encore le temps on peut encore prendre ce temps-là, parler, comprendre. Et si on prend pas ce temps-là, eh ben, on passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'aussi, on bosse beaucoup avec les associations, qui sont beaucoup, souvent des relais, on les renvoie, on dit là, ça prend trop de temps, c'est trop compliqué, on a une liste d'attente. Donc, on envoie et on est obligé. Ce partenariat qu'on avait avant avec les grandes institutions, maintenant, on les a plus avec les associations. Et quelque part, c'est pas normal. C'est pas normal puisqu'on a l'impression qu'on oublie des personnes, on laisse les gens sur la touche, on laisse les gens dans des grandes souffrances. Et je pense que c'est ça la conséquence dramatique, la conséquence la plus immédiate, c'est la misère et c'est la peur et la peur des gens de pour rien demander et de se laisser mourir presque.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Pas si certains parmi nos auditrices et nos auditeurs ont reconnu cette petite musique d'attente lorsque vous appelez Pôle emploi, voilà, musique pour illustrer ce qui peut parfois être une très longue attente et qui peut aussi amener, alors pas uniquement parce qu'on attend au téléphone, mais parce qu'il y a tout un tas d'obstacles qu'on a évoqués depuis le début de cette émission, une forme de découragement, le non-recours par découragement. Finalement, est-ce que ça n'est pas ça la principale cause aujourd'hui, Daniel Verger, ou bien est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors, on a vu quand même qu'il y avait non-recours par non-connaissance des droits ou par difficulté à savoir exactement comment faire. Je crois que c'est quand même le premier point à retenir. Mais effectivement, le découragement arrive du fait de la complexité des démarches, même s'il y a des efforts de fait actuellement, notamment pour simplifier ces démarches. Mais malgré tout,
Choc de simplification.
Oui, notamment. Puis ça reste quand même compliqué quand il faut remplir cette page pour un RSA, même s'il n'y a pas tant de cases que ça qui sont à remplir, mais n'empêche qu'il faut savoir lesquelles. Donc, ça reste un défi. Mais il y a aussi, effectivement, le fait que quand on nous dit « Ah, vous n'y avez pas droit », eh ben, on l'accepte. C'est compliqué de se dire, ah, il y a peut-être une autre solution, ou peut-être qu'il faut vérifier, ou peut-être que il faut que j'aille voir l'assistant social ou l'assistante sociale pour savoir si, en fait, il n'y a pas d'autres possibilités. Récemment aussi, on me disait, ben, moi, j'ai demandé à avoir le RSA, et on m'a pas dit que j'aurais pu avoir aussi une allocation logement, parce que maintenant, je suis dans un logement. Voilà, donc, il va falloir refaire une démarche. Peut-être que ça aurait pu être évoqué au même moment. Donc, cette impression que on va toujours oublier quelque chose ou que ça va être compliqué. Et effectivement, le point, c'est que, puisque ça reste un enjeu d'avoir quelqu'un à qui se confier et à qui parler, ben c'est très important de pouvoir faire confiance à quelqu'un qui a une vision un petit peu globale des aides que l'on peut avoir. Alors, les associations essayent de jouer un peu ce rôle, mais on n'est pas des spécialistes, et nous aussi on s'y perd. Et donc, cette notion de référent de parcours ou de travail que l'on peut faire avec une sorte de médecin de famille, mais sur le plan social, c'est vraiment très important. Et là, les assistants sociaux peuvent jouer ce rôle, mais ça reste important de pouvoir augmenter cela.
Philippe Varin.
Oui, toutes ces raisons sont tout à fait justes. En même temps, le phénomène de non-recours présente d'autres formes, d'autres complexités. Il faut bien considérer le fait qu'il arrive que des intervenants sociaux ne soient pas en mesure de répondre à des demandes malgré l'éligibilité des personnes du fait des contraintes des ressources C'est vrai pour un certain nombre de prestations sociales. Donc là, il y a un non-recours institutionnel qui est créé du fait de ce décalage entre la demande et l'offre. Toujours lié aux contraintes qui pèsent sur les institutions, c'est aussi la difficulté par souvent complexité des systèmes et aussi manque de personnel à pouvoir ouvrir en temps et en heure des droits, à verser intégralement en temps et en heure des prestations. On voit bien comment des organismes sociaux sont confrontés à ces prestations sociales qui ne sont pas versées en temps et en heure et qui, à un moment donné, occasionnent des rappels de droits importants. Et laisser des ménages modestes sans l'intégralité des prestations financières pendant plusieurs mois, cela finalement amène dans de très grandes difficultés, plus encore ces ménages qui se tournent du coup vers des acteurs locaux pour obtenir des aides d'urgence. Et puis le non-recours, et on peut partir du découragement, ce découragement qui peut engendrer un repli, une non-demande qui peut être définitive, nous amène donc à cette autre forme du désintérêt finalement pour l'offre publique, qui parfois s'explique par généralement des désaccords avec le contenu même de ce qui est proposé. Moi, il me semble bien que dans l'évaluation nationale du revenu de solidarité active, pour le RSA activité en l'occurrence, était bien signifié de la part d'un certain nombre de non-recourants qui connaissaient le dispositif, qui avaient estimé leur éligibilité, d'un désintérêt, non seulement pour le fait que le RSA activité était financièrement peu intéressant pour eux, que ces personnes pouvaient imaginer sortir ou améliorer leur situation rapidement, mais aussi du fait que le RSA activité les heurtait dans la mesure où cela signifiait l'institutionnalisation du travail précaire. Donc il y a aussi ce désaccord avec ce qui est proposé qu'il faut prendre en compte. C'est vrai pour le RSA activité comme pour d'autres prestations.
Voilà, des cas de désaccord et aussi peut-être des cas, Jeanne Romana, de refus d'être assimilé à une situation sociale discriminante, c'est-à-dire que j'imagine quand on a recours à certains droits sociaux, on devient, dans le regard des autres, mais aussi peut-être dans son propre regard, quelqu'un de pauvre. Et la pauvreté, c'est quelque chose qui fait peur et qui peut aussi justifier.
C'est pas
justifier.
Que ça fait peur, c'est-à-dire que la société ambiante nous dit que quand vous êtes pauvre, vous êtes hors personne, quoi. Vous êtes personne. C'est vrai que le non-recours, il y a le défaitisme. Il y a des gens qui disent, bon, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, je vais pas y aller. Mais il y a aussi l'institution. C'est-à-dire, je parle pas des collectivités territoriales, je parle des lois qui sont votées. Et, est-ce que, on laisse pas aussi les gens, dans cette misère? En fait, bon, c'est vrai que c'est mon combat, enfin, en tant que travailleur social, c'est que, comme nous, on reçoit beaucoup de gens tous les jours, et de voir toute cette souffrance-là, en tant que travailleur social, on devient un peu militant. On est révolté parce qu'on se dit, c'est pas possible de pas mettre visible, toutes les ressources, enfin, toutes les allocations qui existent. Surtout que ça existe, alors il suffit de les mettre visibles, il suffit de créer les lieux pour pouvoir accéder à cela. Et quelque part, on dit que ça existe, mais en même temps, on donne pas les moyens aux personnes.
Voilà. Bah, essayons peut-être justement de comprendre les raisons de cette invisibilité. Alors, je rappelle la question qu'on pose ce soir, droits sociaux. Combien coûte le non-recours? On le fait avec vous, Jeanne Romana, qui est assistante sociale dans le Val-de-Marne, avec Philippe Varin de l'Audenor, l'Observatoire des non-recours aux droits et services, et Daniel Verger du Secours catholique. Combien ça coûte le non-recours? On pourrait presque transformer aussi la question, c'est-à-dire combien ça rapporte à partir du moment où les gens ne vont pas faire valoir leurs droits à certaines prestations? Ce sont des économies budgétaires. Est-ce qu'on peut voir dans cette perspective d'économie ou de non-dépenses, Daniel Verger, les raisons de cette invisibilité, c'est-à-dire en gros des administrations qui seraient incitées, si ce n'est directement, en tout cas indirectement, à ne pas faire de prosélytisme par rapport aux droits sociaux parce que c'est quelque chose qui coûte cher en termes de dépenses publiques.
On peut se demander en tout cas s'il n'y a pas effectivement une injonction paradoxale ou des limites à la volonté politique de combattre le non-recours. Parce qu'effectivement, le RSA par exemple, bon, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros, mais ça pourrait être 15 milliards, ça devrait être 15 milliards sans les augmenter, simplement en estimant que tout le monde y a effectivement accès.
J'ai même découvert en préparant l'émission que le non-recours et le montant du non-recours était quelque chose qui était budgété dans la loi de finances.
Exactement, parce que c'était le cas sur la prime d'activité où ça avait été budgété insuffisamment par rapport à ce qui a heureusement été réalisé. Donc on a une tendance, effectivement, sans doute, pour des raisons budgétaires de court terme, de budget annuel, à se dire on va pas mettre tous les moyens pour combattre le non-recours. Mais c'est une vision très court-termiste parce que, comme on l'a dit d'abord, ça provoque beaucoup de souffrance et beaucoup de misère. Quand on se retrouve sans ressources, c'est quand même terrible, que ce soit pour une courte période parce qu'on est suspendu de ses droits ou pour une plus longue période. Et aussi, ça casse la cohésion sociale et on voit bien les difficultés d'une société où la cohésion sociale a besoin d'être retissée plutôt au contraire. Donc, travaillons plutôt dans une optique d'investissement social en se disant que chacun ait les moyens de vivre et qu'on soit garanti de cela au maximum en simplifiant les démarches, en étant accompagné avec bienveillance, en redonnant du temps effectivement aux intervenants sociaux pour pouvoir accompagner les personnes. C'est essentiel pour qu'on puisse vivre dans un peu plus de fraternité, mais aussi pour que on gagne sur le long terme, et notamment qu'on arrête de faire vivre les familles ou les personnes dans le stress et dans l'inquiétude, parce que la précarité, c'est aussi l'instabilité. Et Philippe Varin évoquait ces questions d'indu ou de trop perçu que l'on peut avoir assez souvent. On sait ça, il y a cette inquiétude de voir parce que on a trop perçu à un moment donné, parce qu'on a un peu plus gagné, un peu moins gagné, cette instabilité, on nous la réclame tout de suite. Et là, on rééchelonne pas la dette comme pour les grands créanciers, mais au contraire, on doit payer tout de suite. Et ça, c'est une vraie difficulté quand on gère son budget à l'euro près.
Philippe Varin, vous êtes d'accord avec Daniel Verger sur ce constat d'injonction paradoxale qui peut exister dans les administrations ?
Tout à fait d'accord. Il me semble que l'invisibilité du phénomène est liée au fait qu'il permet ou qu'il représente une variable d'ajustement budgétaire. Les choses sont claires de ce point de vue. C'est vrai en France comme à l'étranger. Du coup, que ce soit une vision à court terme, là aussi, on peut être d'accord et remarquer que c'est finalement une catastrophe à moyen ou long terme, dans la mesure où, tôt ou tard, les situations sociales ou sanitaires ou d'une autre nature doivent être traitées par la collectivité et que les problèmes, finalement, s'ils avaient été abordés plus tôt, auraient engendré des traitements moins onéreux pour la collectivité et aussi, bien sûr, pour les personnes. C'est pour ça qu'il faut remarquer l'importance de certaines initiatives lorsque même le monde de l'entreprise, dans les réseaux de responsabilité sociale d'entreprise, s'intéresse à la question du recours et bien sûr au phénomène de non-recours aux droits sociaux pour les salariés eux-mêmes, considérant que ces salariés peuvent être les plus actifs dans l'entreprise, si par ailleurs ils peuvent être, je dirais, le mieux soutenus à travers les droits auxquels ils peuvent prétendre, que ce soit en matière de transport, que ce soit en matière de garde d'enfants, etc. Et en même temps, on peut être étonné par cette persistance de l'invisibilité du non-recours comme variable d'ajustement budgétaire, dans la mesure où cela peut priver la collectivité, par endroit, de création de richesses. Pensons un instant à l'aide personnalisée d'autonomie, l'APA que gèrent justement les conseils départementaux. Là aussi, il s'agit de budget voté. Et on a vu, pour notre part, en travaillant dans différents départements, avec plusieurs conseils départementaux, que le non-recours à l'APA est tout à fait important. Voilà. Les besoins existent et pourtant ils ne sont pas satisfaits. Alors, les explications, cela, sont connues. Elles relèvent pour beaucoup de l'organisation des services d'intervention à domicile. Mais néanmoins, laisser filer, malgré les efforts produits par les collectivités, ce non-recours, c'est non seulement laisser des besoins sociaux en attente qui ne peuvent pas être compensés par des aidants familiaux, mais c'est aussi se priver, alors que les budgets sont votés, d'interventions à domicile qui sont autant de travail, d'emploi, de cotisation sociale et de cotisation. Donc il faut penser aussi en termes d'effet multiplicateur de la dépense publique. Donc effectivement, laisser filer ou laisser sous le coude un tel sujet peut être une économie à court terme, selon certaines visions, mais en tout cas à moyen et long terme, c'est une gageure à la fois pour les personnes et pour la collectivité.
Jeanne Romana, est-ce qu'il a pu vous arriver d'être confronté, alors soit vous, soit certains de vos collègues, à des consignes, disons, peut-être plus ou moins directe, faisant état de... Bah, n'insistez peut-être pas trop auprès de vos publics sur les droits auxquels ils pourraient avoir recours parce que période d'économie budgétaire, il faut voilà, il faut essayer un petit peu de tenir les dépenses.
Non, justement, ce département n'a pas, au contraire, il a le souci malgré les contraintes budgétaires imposées par l'État. Ce département justement fait tout pour permettre aux gens d'accéder à leurs droits.
Alors, je rappelle, votre département, c'est le Val-de-Marne, voilà. Mais de manière plus large, au niveau territorial, comme vous faites aussi partie de cette Association nationale des assistants sociaux, est-ce que certains collègues peuvent aussi témoigner ça?
Oui, je l'ai déjà entendu, des témoignages. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais...
C'est dit comment, alors?
Mais c'est plus, en fait, des réflexions qui sont... Puisque les gens, c'est plus les services de l'État, en fait. C'est pas au niveau des collectivités, au niveau des communes, tout ça. Il y a tellement de proximité avec la population que les responsables, enfin les maires ou les présidents de conseils départementaux, ils peuvent pas rester fermés à la population puisqu'il y a un accès direct. Mais tous les services qui sont directement liés à l'État, on voit bien que ce sont ces services-là qui nous posent problème. C'est quand même le Pôle emploi, la caisse d'allocation familiale, c'est les services qui sont directement liés à l'État. Ce sont ces guichets-là qui ont fermé au cours des années. C'est de ça qu'on parle. Enfin, concrètement, c'est qu'on a rappelé les fonctionnaires, on les a rappelés petit à petit. Évidemment, comme dit M. Varin, ce sont des économies à court terme, mais à long terme, on voit que ça impacte beaucoup de choses. L'avenir, la prévention, parce que des parents qui sont obsédés par leurs soucis quotidiens financiers, ben ils sont pas disponibles pour leurs enfants. Et puis après, ça crée des problèmes je dis pas délinquance, mais ça des maladies, donc qui va coûter plus cher à la CEPAM. Alors que si au départ, les droits étaient bien visibles, bien répartis, comme ça se passait il y a une dizaine d'années, c'était encore comme ça. Il y avait des guichets ouverts. Les gens leur disaient, vous avez un problème sécu, ils partaient à la sécurité sociale et le problème était réglé dans la journée.
La solution, ce serait quoi, Daniel Verger? Ce serait de rouvrir des guichets, de remettre des personnes derrière, de simplifier peut-être aussi les droits sociaux, parce qu'il y en a énormément. C'est pas aussi toujours très facile, d'ailleurs, de s'y retrouver et d'aller vers ce qui pourrait être la couverture socle commune. C'est ce qui ressort d'un rapport assez récent du député Christophe Sirugue. Enfin, il n'est pas le seul, d'ailleurs, à porter cette idée.
Oui, alors les solutions, c'est effectivement d'abord de changer de regard et d'être dans une attitude bienveillante par rapport aux personnes. Ça renforce la confiance, ça aide à aller rencontrer l'administration.
Mais ça passe pas par une loi, par exemple. Hein.
Par une loi, mais ça passe par un discours politique, par contre. Deuxièmement, effectivement, remettre du temps de disponibilité avec des référents de parcours, avec des personnes qui ont la possibilité d'avoir du temps pour accompagner les demandeurs et voir quels sont leurs droits et comment on fait pour y arriver. Troisièmement, simplifier les démarches. On pourrait même dire inverser la charge de la preuve. Aujourd'hui, on peut aller vers beaucoup plus d'automaticité. On a très souvent les informations que l'on demande sont en réalité déjà disponibles. On a avec l'administration fiscale, avec les informations disponibles au niveau des CAF, de Pôle emploi, etc., beaucoup d'informations. Donc, le principe qui commence à se mettre en place de « dites-le-nous une fois », voire même de « vous avez droit à ça, on vous en informe, et voilà comment vous pouvez y arriver », c'est un principe qui doit se mettre en place largement dans les années qui viennent. Et évidemment, ce sera plus facile si les démarches globales sont simplifiées, y compris une certaine forme de simplification des minima, en faisant attention quand même à ce que ça provoque pas trop de perdants. Donc, faut bien y réfléchir. Mais l'idée d'une sorte de revenu minimum garanti, ça me semble être une très bonne idée. Et avec les associations membres d'alerte, c'est ce que nous proposons.
Philippe Varin.
Oui, je partage largement le point de vue de Daniel Verger. C'est là un axe d'intervention tout à fait principal, d'intervenir sur la structure générale, l'automaticité des droits, peut-être revenir à des contrôles a posteriori de la l'éligibilité des demandeurs. Mais je pense aussi au local, il y a des questions fortes à poser, notamment que soit appliquée l'obligation de domiciliation, voulue par la loi de 2007. Il est vrai que sur un grand nombre de territoires, les collectivités en charge de cette obligation ne la mettent pas en œuvre, ni d'ailleurs les préfectures, et en même temps d'avoir des partenaires locaux qui sont prêts à aborder la question des pré-accueils inconditionnels, au-delà des publics en silo, d'aborder les problèmes d'accès aux droits de l'ensemble de la population de façon à les informer et les accompagner au mieux. Donc il y a des enjeux enjeux aussi et des modalités d'intervention au local qui doivent être, je dirais, développées aujourd'hui et appuyées par une présence forte de l'État qui ne serait pas simplement un simple coordinateur des actions entreprises.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois de nous avoir renseignés sur cette question encore mal connue du non-recours aux droits sociaux, notamment. Merci Philippe Varin. Je renvoie vers votre dernier ouvrage, Le non-recours aux politiques sociales, publié l'an dernier aux presses universitaires de Grenoble. Grenoble, où vous étiez en duplex des studios de France Bleu Isère. Merci Jeanne Romana, assistante sociale pour le Conseil général du Val-de-Marne. Et merci Daniel Verger, responsable du pôle action et plaidoyer au Secours catholique. Vous pouvez réécouter cette émission comme chaque jour en vous rendant sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe de l'émission, Louise Fuseau, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Fanny Richet, Cyril Baer. Émission réalisée par Romain Masson avec la prise de son d'Alia. On se retrouve demain à 18h20. Dans un instant, vous retrouverez Mathilde Serrel pour Ping Pong. Tout de suite, c'est le rappel des titres.